Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme du Studio Tamani. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. À Bankass, des signataires d'un accord de paix sont harcelés par des groupes armés. Une situation qui intervient après l'accord de non-agression conclu entre 7 communes du cercle. Assassinat d'un médecin à Boura dans le cercle de Yoroso. Parmi les suspects arrêtés figurent deux de ses collègues. La journée mondiale pour un Internet plus sûr est célébrée chaque 9 février. À cette occasion, notre dossier du jour porte sur les fake news ou fausses informations sur les réseaux sociaux. Pour faire face à la problématique, quelques techniques emploient les journalistes. Éléments de réponse dans ce journal. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue. Pacte pour la paix à Bankass. Les signataires disent être menacés. 7 communes du cercle de Bankass ont signé le dimanche 7 février un document pour la paix. Au lendemain des assises qui ont abouti à cet accord, des signataires disent avoir reçu des menaces pour se retirer sans délai de ce pacte. Les détails avec Maliki Diallo.
Le pacte signé à Dialassagou est une initiative des populations et des élus de 7 communes du cercle de Bankass, confirment des sources locales. Dans les documents, différentes communautés s'engagent à faire la paix. Elles se sont officiellement pardonnées et se sont accordées sur la libre circulation des personnes dans les communes signataires. Le pacte prévoit également l'interdiction des armes dans les foires. Il invite les parties à favoriser le retour des déplacés. Quelques jours après la signature de ce pacte, les acteurs qui s'y engagent feraient face à des harcèlements depuis lundi. Ils nous exigent même de faire des messages vocaux pour annoncer notre retrait du pacte, a confié un élu local. Certains élus indiquent que ce sont des chasseurs traditionnels qui sont derrière ces menaces. Mais à ce stade, aucune réaction officielle de ces derniers sur ce sujet. Pourtant, les milices de toutes les communautés ont donné leur aval pour la signature du pacte entre les 7 communes, a confirmé à Sidio Tamani un autre élu. Cette situation risque de compromettre la signature du pacte entre toutes les 12 communes de Bankass prévues pour le dimanche prochain, soulignent des observateurs.
Ce pacte signé entre 7 communes de Bankass serait un grand pas dans le retour de la paix dans le centre du Mali, notamment le pays Dogon. Ces propos sont de Idrissa Sankaré, ancien député du cercle de Bankass. Il a participé aux travaux qui a abouti à la signature du document. Il nous parle du contenu du pacte au micro de Maliki Diallo.
L'accord de Dialassagou porte sur de grands points. Notamment, le premier élément, c'est que tout le monde s'engage pour la paix. Non seulement verbalement, mais surtout au fond de chacun. Aujourd'hui, nous semble que cela est acquis. Deuxièmement, que les gens se pardonnent pour tout ce qui a été commis comme acte. Les tueries, les vols de bétail, tout. Que les gens se pardonnent mutuellement. Troisièmement, qu'on arrête les attaques de village à village, les provocations, les propos vexants, que tout le monde s'engage à cela. Qu'on facilite la circulation des personnes et des biens. Pour ceux qui veulent aller dans les foires, tous ceux qui veulent voyager, qu'on libère carrément tous les axes. Et encore un autre point, éviter le port d'armes, le port et la circulation des armes dans les marchés, dans les villages. Et nous avons demandé également de soutenir le processus du retour des déplacés.
Si vous êtes à Bankass, vous pouvez écouter les programmes du Studio Tamani sur la radio Seno. Nous restons à Mopti pour parler cette fois-ci de l'instauration d'une journée citoyenne officiellement lancée lundi dernier par les autorités régionales. Elle vise à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le colonel-major Abbas Dambélé est le gouverneur de la région de Mopti. Il nous donne plus de détails au micro de notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum.
La résilience des populations, qui est un sujet d'actualité, se construit autour d'un triptyque de valeurs qui sont 1. Le respect dévolu au drapeau national, 2. L'amour de la patrie et 3. L'abnégation dans le travail ou dans la mission assignée. Nous ambitionnons à travers ces journées citoyennes de réveiller chez les populations cette fibre patriotique, cette abnégation, cet amour de la patrie requis pour être un bon citoyen au lieu d'être un simple habitant. Nous allons dans les perspectives programmées dans les différents lieux publics donner une périodicité à ce événement afin de pouvoir maintenir le rythme et de pouvoir continuer à réveiller la fibre. Le drapeau est l'emblème de la patrie et le drapeau est ce qui nous unit tous. Et le fait de le hisser n'a de symbolique que de transcender nos différences, nos divergences et nous unifier.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou encore sur Twitter. Boubacar Keïta, l'un des fils de l'ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, est désormais libre de ses mouvements. Il a quitté hier mardi Bamako pour la Côte d'Ivoire, là où réside son grand frère Karim Keïta. Sur son compte Twitter, Boubacar Keïta a affirmé que sa libération lui a été notifiée dans une lettre datée du 3 février dernier. Direction Sikasso, rebondissement dans l'affaire dite assassinat du docteur Youssouf Malé, médecin à Boura dans le cercle de Yoroso. La gendarmerie vient de mettre le grappin sur plusieurs personnes qui seraient impliquées dans ces crimes. Parmi eux, deux de ses collègues médecins. C'est ce que nous dit docteur Sidiki Farota, secrétaire général du Conseil des médecins du cercle de Yoroso. Il est joint par Ali Sissi.
La gendarmerie a eu affaire des arrestations et il y a eu des mandats de dépôt sur trois personnes. Deux médecins, deux de ses collègues, des travailleurs du CESCOM. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Depuis l'assassinat maintenant, il y a un renfort de l'armée malienne qui est présentement à Yoroso et qui est en train de faire des patrouilles. Personnellement, je ne peux pas vous dire si c'est l'acte des terroristes ou pas. Il n'y a pas de dispositions qui ont été prises pour sécuriser les gens de santé, pas particulièrement. Lors des médecins a déjà porté plainte il y a deux semaines de cela au niveau du tribunal de Yoroso. Présentement, au niveau du centre de santé, le travail est carrément arrêté. Le personnel a quitté le centre.
Parlons économie. Dans cette édition, les acteurs de la filière coton demandent au gouvernement d'accorder une attention particulière à la production du coton au Mali. Ils l'ont exprimé au cours des assises nationales sur le coton qui ont pris fin ce lundi à Bamako. À l'issue des travaux, les participants ont également souhaité l'adoption d'une nouvelle forme de subvention de l'État à la filière. Selon les économistes, la faible production du coton l'année dernière va avoir des conséquences drastiques sur l'économie nationale. Selon eux, il faut prioriser de nouveaux mécanismes pour la relance du secteur dans le pays. Khalil Dambélé, économiste, est joint par Khalifa Gouïta.
Le coton, autrement dit, c'est 215 milliards en moyenne de rentrée chaque année dans le budget de l'État. Ce sont ces recettes-là qui financent les dépenses. Quand les dépenses baissent, ça crée un déficit parce qu'on ne peut pas effectivement rester sans dépenser. Donc on va aller s'endetter et exposer la génération future à un risque de défaut de paiement. Il est clair que le coronavirus a posé beaucoup de problèmes. Quand vous ajoutez ce risque du coton-là, il est clair qu'on risque d'observer davantage de ralentissement de l'activité économique. Il faut un modèle d'industrialisation capable de transformer ces matières premières-là qui va nous permettre d'assurer une chaîne de valeur conséquente pour créer justement des chiffres d'affaires. Tant qu'on va être justement tributeur de ces matières premières-là en exportation, on va toujours observer des situations pareilles comme ça quand les gens vont vouloir ne pas acheter le coton ou quand on va justement diminuer la production de coton.
On en vient à notre dossier du jour. Les fake news ou fausses informations sont de plus en plus fréquentes sur Internet, notamment les réseaux sociaux au Mali. C'est du moins le constat fait par de nombreux observateurs. Selon eux, ces infox sont souvent publiées sciemment pour obtenir une grande audience ou pour nuire intentionnellement à quelqu'un. Face à la propagation des fausses informations, les journalistes et utilisateurs de l'Internet ont développé une technique qui consiste à vérifier la véracité des faits sur la toile. À l'occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, célébrée hier 9 février, notre reporter Moussa Malé Sissoko s'est intéressé à ce sujet. Écoutons-le.
Aujourd'hui, il y a plus d'informateurs amateurs que de professionnels de l'information sur Internet, déplore Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, Appel Mali. Un défi important auquel fait face le journaliste professionnel, dit-il.
Ça nous concerne directement, surtout précisément la presse en ligne. Nous faisons partie des acteurs aujourd'hui de l'Internet, précisément les numériques au Mali. Les réseaux sociaux, les médias sociaux ont libéralisé la parole. La raison pour laquelle j'ai toujours rappelé aux éditeurs des médias sociaux que si les médias ont trois rôles, informer, éduquer et divertir, nous, quatrième rôle, c'est de modérer, tenir, filtrer les commentaires.
Pour contrer ces fake news, de nombreux médias ont recours au fact-checking, une technique de vérification des images, vidéos ou déclarations à travers des outils. Abdoulaye Guindo, blogueur et membre de Bembéré Vérif, un bureau de fact-checking.
Fausses informations impactent négativement sur le travail des blogueurs parce qu'on est tous vus comme des personnes qui propagent la fausse information. formation dont nous aussi on s'est organisé pour rendre Internet plus sûr au Mali. On a décidé ensemble d'ouvrir un bureau de vérification. C'est un bureau de fact-checking qui permet de checker toutes les informations qui circulent sur Internet et rassurer les internautes que Internet est certes un danger, mais il y a les moyens de contrer les dérives.
Rappelons qu'il n'y a toujours pas de texte qui encadre la presse en ligne au Mali. Selon les responsables de l'Appel Mali, une charte et un comité d'autorégulation ont été mis en place.
Un contrat de signé, Moussa Malé Sissoko, sport, football, tournoi de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Aiglonneux du Mali jouent la demi-finale ce jeudi contre la Mauritanie à 14h. Avant d'accéder à cette demi-finale, les Maliens ont battu successivement la Sierra Leone et la Guinée-Bissau sur un même score de 5-0. Le tournoi se déroule à Dakar, au Sénégal. Situation de la maladie à COVID-19. À la date du mardi 9 février 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 11 nouveaux cas positifs, 19 patients guéris et 0 décès. La situation cumulée est de 8192 cas confirmés, dont 6090 guéris et 339 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID, présentée par Aïssa Tadjara.
Le Mali a commandé plus de 8 400 000 doses de vaccins contre la COVID-19. Le pays devrait recevoir ces doses d'ici fin mars 2021, selon les autorités. Le début de la vaccination est prévu pour le mois d'avril, précise-t-elle. Quel est le type de vaccin commandé par les autorités? Quel est le chronogramme de cette campagne de vaccination? Markaché Daou, chargé de communication au ministère de la Santé et du Développement social, répond à nos questions.
Le Mali a opté pour un type de vaccin qui s'adapte bien aux conditions climatiques de notre pays. Il s'agit du vaccin fabriqué par AstraZeneca. Donc, nous avons commandé pour plus de 8 millions de doses, donc pour 4 millions et quelques d'habitants. Donc, ce vaccin que nous avons commandé alors est d'une efficacité de plus de 80%. Donc, ça veut dire que c'est parmi les meilleurs vaccins. Les conditions de conservation sont assez faciles. C'est un vaccin qui se conserve entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius.
Quelles sont les personnes d'abord qui vont recevoir le vaccin?
La vaccination concerne d'abord le personnel médical qui est en première ligne alors du combat contre la COVID. Environ 4% de la quantité du vaccin commandé qui est destiné pour ce personnel. Ensuite, viendra la catégorie des personnes âgées. Donc, il y a environ 6% du vaccin commandé qui est destiné pour les personnes âgées de 60 ans et plus. La troisième catégorie, c'est environ les personnes de plus de 16 ans vivant avec une comorbidité, à laquelle 10% de la commande du vaccin est destinée. Alors, le focus va être mis sur le foyer qui est Bamako. Donc, l'éteindre d'abord et ensuite, de façon progressive, le reste du pays va être couvert par cette vaccination.
À présent, la question d'auditeur du jour, elle est répondue par professeur Yacouba Toloba, pneumologue et coordinateur du deuxième centre de prise en charge des malades de COVID-19 au CHU du Pongé.
Allô, professeur, est-ce que le virus se transfère par le téléphone?
C'est bien sûr un facteur de contamination. Mais les risques de contamination varient selon ces facteurs. C'est un facteur de contamination. On vous dit de ne pas saluer en donnant la main et vous donnez le téléphone. Le virus peut être transmis à travers le téléphone. C'est aussi simple. C'est un facteur de contamination.
C'est ce qui met fin à l'actu COVID d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Kolondiaba où le commissariat de police a fait l'objet d'une attaque par des individus armés non identifiés dans la nuit du 7 au 8 février dernier. La direction générale de la police nationale l'a annoncé ce lundi dans un communiqué. Selon elle, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. 468 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui au système de santé décentralisé organisé dans les districts sanitaires de Kenyeba et Bafoulabé. Il a été lancé hier au lac de Bafoulabé, selon les responsables du projet. L'objectif est de renforcer les structures de santé communautaire et d'améliorer la santé de la reproduction dans les districts de Bafoulabé et Kenyeba. Il est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Gagné Kanté assure la technique. Ne décrochez pas car l'info continue. C'est Tamani.